penses-tu qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont peut-être ce manque de confiance en soi-là, que la coke vient leur donner, puis c'est pour ça qu'ils consomment?
Totalement.
Moi, je vous annonce que l'obligation du port du masque va être levée à compter du samedi 14 mai.
Je te rappelle que même ici au Québec, il y a des gens qui veulent qu'on recule le droit des femmes à disposer de leur corps.
Bonsoir. On vous présente ce soir un dossier exclusif sur une tendance troublante. La consommation de cocaïne est en nette progression chez les jeunes. Cette drogue serait plus facilement accessible que jamais et dans certains cercles, ce serait même devenu banal de renifler une ligne de poudre dans une soirée bien ordinaire entre amis. En fait, le nombre de jeunes adultes qui ont déjà essayé la coke a presque triplé en quelques années au Canada. Notre collègue Audrey Ruel-Manceau a tenté de cerner les causes de ce phénomène qui inquiète les experts. Bonsoir, Audrey.
Salut, Noémie.
Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille de ce sujet?
En fait, il y a eu plusieurs facteurs. Premièrement, je ne sais pas si c'est sur TikTok, mais là-dessus, il y a pas mal de vidéos, de jokes, de cocaïne, de consommation, tout ça. Puis c'est un réseau social qui est fréquenté, la majorité, par des moins de 24 ans. Puis autour de moi aussi, j'entendais du monde qui parlait de soirée de poudre. Puis je me disais, bien, voyons, c'est-tu rendu commun? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Fait que je suis allée voir des chiffres, j'ai comparé les années avec les chiffres de l'enquête canadienne sur l'alcool et les drogues. Puis là, ce que j'ai réalisé, c'est que depuis 10 ans, les jeunes de 20 à 24 ans, c'est la tranche d'âge qui est la plus concernée, leur consommation de cocaïne dans la dernière année, c'était ça le sondage, a triplé. Trois fois plus. C'est quand même énorme. Fait que là, je me suis demandé, bien, qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans? Où c'est qu'on l'a échappé? Fait que mon collègue Joris puis moi, on s'est lancé dans une grande quête pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi les jeunes se tournent vers la cocaïne plus qu'avant. On a trouvé plusieurs pistes de réponse, des réponses intéressantes, surprenantes aussi. Je te montre un extrait, on y revient après.
Hey guys, I just did my first line of coke.
So this is what we're doing. We're just doing drugs on TikTok now. Okay.
Toutes ces images-là, ça vient de TikTok, qui est un réseau social utilisé en majorité par les moins de 24 ans. Là, je ne sais pas si vous aussi, vous perdez beaucoup de temps là-dessus, mais je vous le dis, des vidéos comme celle-là, qui font allusion à des soirées de poudre, des jokes de coke, il y en a quand même pas mal. Qu'est-ce qui peut expliquer justement que les plus jeunes, maintenant, consomment ça de façon récréative?
On nous dit que les drogues sont dangereuses. Toutes les drogues, si on les consomme une fois, si tu prends de la cocaïne une fois, tu fumes du crack une fois, tu vas fumer du crack toute ta vie, et toutes ces histoires-là.
Tu fais une ligne, le lendemain, t'es dans la rue, là.
Qui sont totalement fausses. Et là, ils révisent le truc. Ouais. Ils sont comme, ah ben finalement, ce qu'on m'a appris à l'école, là, c'était pas si vrai que ça. Les campagnes du gouvernement, en fait, c'était un peu exagéré. Et là, on rejette l'ensemble du discours de prévention. D'un coup, on dit, bon ben finalement, on m'a menti. Fait que vu qu'on m'a menti, on m'a menti sur tout.
Tu vas te faire arrêter, les policiers peuvent détecter toutes les drogues.
Comment ils peuvent savoir, je suis Julie?
Ils te feraient remarquer que tu parles un pigeon.
C'est nous qui travaillons au milieu des substances tout le temps, avec des gens qui consomment en permanence. Pour nous, c'est pas la substance, c'est le contexte qui est important. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui amène les gens à se rendre là? On peut pas se le cacher, l'air du temps dans lequel on est actuellement, c'est pas très favorable pour des jeunes. Donc on va essayer de combler ce mal-être par quelque chose. Et les substances, ça répond à ce besoin de bien-être. Et à la rigueur, ça donne un break.
Ça donne un break, OK. Mais reste que les visites à l'urgence, les hospitalisations, les surdoses causées par la cocaïne sont en hausse. Puis les jeunes, ben ils font aussi partie des stats. Mais ça les empêche pas de flirter avec le danger. Puis justement, ce soir, on est invité à un party. Apparemment, il va y avoir de la cocaïne. Puis j'espère que je vais pouvoir parler avec des jeunes qui en font, parce que je veux savoir ce qu'ils pensent de l'hypothèse du mal-être puis de la consommation en mode YOLO.
Est-ce que ta génération vit davantage le moment présent?
Oui, je pense qu'on vit dans des années compliquées, ce qui fait que forcément les jeunes sont plus portés sur le moment présent qu'on l'était avant. Peut-être que c'est un défaut ou une qualité, mais en tout cas, ça fait partie de notre génération.
Je pense que ça a rapport avec les réseaux sociaux. Et je pense que c'est un gros négatif à notre génération parce que ça altère totalement notre confiance en soi.
Puis tu penses qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont peut-être ce manque de confiance en soi-là, que la coke vient leur donner, puis c'est pour ça qu'ils consomment?
Totalement.
Alors, est-ce que cette jeune femme a raison, pardon, d'attribuer le phénomène aux réseaux sociaux?
Oui, elle a 100 % raison, en fait, parce que même pendant qu'on était dans notre démarche de reportage, l'ONU a sorti un rapport. Puis dans ce rapport-là, le lien est établi de façon sans équivoque. Les réseaux sociaux, c'est la cause principale de l'augmentation de la consommation de drogue chez les jeunes, de drogue en général, mais entre autres de la cocaïne. Donc, le lien, il est là. C'est apparu en même temps, l'augmentation, l'apparition des réseaux sociaux. Donc, oui, elle a raison. Puis, en dessous de ça, bien, il y a toute la notion aussi de mal-être. La génération qui se retrouve devant pas grand-chose d'encourageant présentement, on s'entend, hein, pour tout le monde. Mais quand t'es jeune, tu regardes ce qui t'attend, puis t'es comme, peut-être que je vais vivre aujourd'hui parce que demain, je sais pas trop ce qui va arriver. Puis là, en fait, dans le grand reportage, bien, il y a aussi d'autres témoignages. Il y a des jeunes qui nous ont fait confiance, qui nous ont invités dans leur univers, qui nous ont raconté leur réalité. Aussi, on a parlé avec la police, hein, parce que qui dit plus de consommateurs dit plus de cocaïne. Donc, l'offre suit la demande. On s'est demandé qu'est-ce que fait le SPVM dans tout ça. Donc, il y a les réponses également dans le reportage. Les saisies ont triplé comparativement à 2014. Donc, quand même.
Les saisies de cocaïne,
à Montréal seulement. Donc, quand même, hein, on est loin de se tourner les pouces du côté de la police. Finalement, on a aussi un message pour les parents, parce que là, on comprend qu'on présente ça ce soir. Il y en a qui pensent à leurs jeunes, inévitablement. Donc, si vous vous demandez comment gérer ça, bien, allez écouter tout ça, reportage complet, texte également sur nouveau.info. Tout le dossier est là. Ça s'appelle « On n'a pas inventé la poudre ». Bien sûr, ça a été inventé il y a très longtemps, mais apparemment, il y en a beaucoup présentement.
Il y en a beaucoup qui la redécouvrent.
Qui la redécouvrent, et voilà.
Merci beaucoup, Audrey.
Salut, Noémie.
On va poursuivre la discussion avec la docteure Marie-Ève Morin. C'est une omnipraticienne qui œuvre auprès des personnes atteintes de dépendance et de troubles de santé mentale. Bonsoir, docteure Morin.
Bonsoir.
D'abord, comment est-ce que vous réagissez à ce que vous venez d'entendre? Est-ce que ça concorde avec ce que vous observez dans votre pratique?
Tout à fait. En fait, je pense qu'on peut... on n'a pas parlé beaucoup de l'impact de la pandémie, hein, mais je pense que les jeunes de 0 à 25 ans ont été carrément sacrifiés pendant la pandémie, comme les adultes aussi. Mais tout le monde a été isolé. Il y a eu de l'anxiété, de la dépression, des carences affectives. Et n'oubliez pas qu'en tant qu'être humain, notre première dépendance, c'est la dépendance au plaisir. OK? Mmh. Donc, qu'on parle de cocaïne, de méthamphétamine, de speed, d'ecstasy, d'héroïne, de Xanax ou de pot, ce que les gens recherchent quand ils consomment, c'est oui, d'avoir un break, mais d'avoir du plaisir. Il n'y a personne qui consomme pour faire une psychose ou une overdose. Mm-hmm. Mais un point dont vous n'avez pas parlé qui me préoccupe énormément, on en a parlé beaucoup dans les médias depuis 2 semaines, c'est que la cocaïne qui circule en ce moment, là, c'est pas de la cocaïne.
C'est quoi?
Hein, la cocaïne est contaminée énormément de ces temps-ci avec des substances même très étonnantes.
Des sels de bain, notamment.
Oui, on sait qu'à la base, la cocaïne en Colombie, au Pérou, en Bolivie, elle est coupée principalement avec du levamisole. Donc, le levamisole, c'est un vermifuge qu'on va rajouter dans la coke pour principalement la conserver pendant le transport. Mais aussi, ça va donner une espèce de petit... boost à l'effet de la cocaïne, donner l'impression qu'elle est meilleure. Par contre, le levamisole est beaucoup plus dangereux pour la santé que la cocaïne pure. La deuxième substance qu'on retrouve beaucoup dans la cocaïne, moi, je travaille avec Projet Caméléon, on fait du drug testing dans les événements festifs depuis 2017. Mm-hmm. Et on trouve énormément de méthamphétamine. Donc, la cocaïne est vraiment pas pure. La méthamphétamine, c'est ce qu'on utilise pour faire du cristal ou du speed. Donc, maintenant, on coupe la cocaïne avec ça parce que c'est beaucoup moins cher. Et finalement, la semaine dernière, vous l'avez vu dans les médias, ça a sorti. Moi, ça fait 10 ans que je m'intéresse à cette classe de substances-là en me disant que j'espère que ça n'arrivera jamais au Québec. Et malheureusement, c'est rendu au Québec. On appelle ça les catinones. Ce sont des amphétamines hallucinogènes et la plus célèbre de ça, c'est la méphédrone. Donc, Cactus a d'ailleurs analysé sur 18 échantillons de cocaïne, il y en a 16 qui contenaient des catinones dans les 2 dernières semaines.
Donc, il y a des risques réels à une consommation récréative qui tend à être de plus en plus banalisée?
Bien, on n'a même pas parlé du fentanyl. Hein? Il y a eu des décès récemment. Il y a eu jusqu'à 6 décès depuis le 27 mars pour des gens qui ont fait une puff ou deux de crack. Donc, c'est de la cocaïne fumée. Ils sont décédés d'une surdose de fentanyl. Fait que ce que les jeunes croient consommer et comme étant de la cocaïne, attention, il faudrait qu'ils puissent la faire tester avant.
Faire
tester la substance avant de la consommer. Ils font ça à Cactus, on fait ça à Projet Caméléon, il y a le Grip qui en fait. Donc, l'analyse de substances, ça permet d'éviter des surdoses avec des mauvais produits dans la drogue. Je ne vous dis pas que la cocaïne pure est sans risque, mais beaucoup moins risquée que la cocaïne qui circule en ce moment.
Donc, comment on trouve le bon équilibre entre ce qui semble être une banalisation de cette substance-là puis une approche répressive qui peut aussi avoir des effets pervers?
La répression, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera jamais et même ça l'empire la situation. Si on dit à un enfant, touche pas à ça, il va y toucher. Et si on dit à un adulte, touche, prends pas ça, il va l'essayer, ça a même tendance à renforcer les comportements de compulsifs ou même de consommation. Donc, la répression, ça ne fonctionne pas, même je pense que ça rempire. Ce qu'on doit faire, c'est de la réduction des méfaits, c'est-à-dire faire de la prévention, de l'éducation, de l'information, de l'analyse de substances. Parce qu'on sait que de toute façon, les gens vont consommer quand même.
Merci beaucoup d'avoir attiré notre attention sur ces aspects. Merci beaucoup, Dr. Morin.
Merci. Bonne fin de journée.
Ça y est, ce sera dans 10 jours. L'obligation du port du masque dans les espaces publics au Québec va tomber à partir du 14 mai. Le directeur national de santé publique par intérim l'a confirmé ce matin. Simon Bourassa a tous les détails. Bonsoir, Simon.
Bonsoir, Noémie.
Donc, c'est fini le masque partout, sauf dans les transports publics et dans les établissements de soins.
Oui, établissements de soins, on parle d'hôpitaux, de cliniques médicales, CLSC, CHSLD, les ressources intermédiaires aussi, va demeurer obligatoire jusqu'à nouvel ordre, effectivement, dans le transport en commun, donc pas de nouveau de ce côté-là. Le retour à l'école aussi des élèves du primaire et du secondaire après le week-end, le fameux week-end du 14 mai, bien, ça va se faire sans le masque, autant dans les classes que dans le transport scolaire. Même chose dans les CPE et les garderies. Puis en milieu de travail, bien, à part dans les transports et les milieux de soins, le port du masque qui ne sera plus obligatoire. Donc, la CNESST qui harmonise ses consignes maintenant à celles de la santé publique. Par contre, en espace restreint, lorsqu'on ne peut pas respecter certaines mesures, quand il n'y a pas suffisamment de circulation d'air, lorsqu'on a à se déplacer, par exemple, avec un collègue, bon, on recommande de le porter. Puis aussi, bien, les employeurs, avec leur droit de gestion, oui, peuvent l'imposer dans leur milieu de travail aussi. Maintenant, cette consigne, est-ce que ça va faire repartir les cas et les hospitalisations à la hausse? Réponse du Dr. Boileau.
Prévoyons-nous qu'au moment rendu, la fin de semaine prochaine, le retrait du port du masque va générer une autre poussée d'hospitalisation? Non. Nos calculs et nos projections en ce sens montrent que ça va arriver à un bon moment où la pente devrait continuer à baisser et ne pas générer une poussée supplémentaire de cas et d'hospitalisation.
Simon, les experts de la santé publique préviennent toutefois que la pandémie n'est pas terminée et qu'on n'est pas à l'abri d'une 7e vague.
Oui, en fait, l'histoire de la 7e vague, Noémie, c'est pas est-ce que ça va arriver, mais plutôt quand ça va arriver. C'est ce que dit le docteur Jean Lontain, qui est microbiologiste et infectiologue, qui conseille la santé publique dans ses décisions. Par contre, le phénomène saisonnier aussi fait en sorte qu'on devrait avoir un répit cet été. Est-ce que cette 7e vague va venir à l'automne? Bien, ça reste à déterminer. En passant, la vaccination de la 4e dose pour les 18 ans et plus est maintenant ouverte sur Clic Santé. J'ai demandé, par contre, au docteur Lontain, une personne, par exemple, je demande pour un ami... Un gars de 30 ans en santé qui a été vacciné pour la 3e fois au mois de décembre, est-ce qu'il devrait aller rechercher sa 4e dose? On m'a dit que c'était pas nécessaire. Je serai encore immunisé, donc si c'est votre cas, tant mieux également. Maintenant, qu'est-ce que pensent les gens du retrait de la consigne du port du masque? On les écoute.
Je pense que je vais continuer de le porter quand je vais sentir que la situation l'exige. Ça nous appartient, ça nous appartient à tout le monde. Il faut se protéger.
Frère, j'ai l'impression, ce que j'ai vu ici, c'est que les gens étaient assez réticents, ils n'étaient pas contents parce que c'est la seule province où on doit obligatoirement porter un masque. Alors je crois qu'ils sont un peu fatigués, c'est l'impression que j'ai eue, mais c'est normal, tout le monde est fatigué.
En France, c'est vrai que ça fait beaucoup de bien quand ils ont enlevé enfin le port du masque. C'est plus obligatoire que dans les transports en commun, et là, on trouve ça normal, parce qu'il y a vraiment, tous les gens sont collés.
Vous irez vous faire vacciner à l'automne s'il y a besoin?
À l'automne?
Ouais.
Encore une fois?
Ouais.
Pour une variante qui n'existe pas encore, qui n'est pas dans le vaccin? La réponse, je pense, qui est implicite, donc non.
Alors, notre collaborateur Victor Henriquez se joint à nous. Bonsoir, Victor.
Bonsoir, Noémie.
Tu es spécialiste en relations publiques et en gestion de crise. Puis honnêtement, je trouve que la santé publique aurait eu besoin de tes services ces derniers jours, ces dernières semaines pour gérer les communications sur le masque. Et là, sur cette quatrième dose, on a appris dans les dernières minutes que les rendez-vous sont ouverts aux 18 ans et plus pour la quatrième dose. Or, on a eu ce matin une conférence de presse, en fait, aujourd'hui, dans la journée, une conférence de presse de la santé publique où il n'a pas été question de ça. Donc, ça paraît mal, non, d'un point de vue communication?
C'est maladroit, je dirais. On a voulu, à 11 h ce matin, on avait un point de presse de Dr Boileau qui nous parlait du retrait du port du masque. Je pense que ce qu'on a voulu, c'est éviter d'amener la quatrième dose à ce moment-là et, dans le fond, d'avoir juste des questions sur la quatrième dose, parce qu'elle amène des questions, notamment sur la question du délai. Est-ce que c'est 3 mois? Est-ce que c'est 6 mois? Il n'y a pas encore d'avis non plus du Conseil d'immunologie du Québec. Donc, on est un peu prématuré dans cette annonce, selon moi, mais en même temps, je pense qu'il y a des gens qui commencent à... Ça commence à faire un moment, plus de 3 mois, qu'ils ont su cette dose, donc ça peut rassurer les gens. Je pense qu'on veut commencer un processus. Mais je suis d'accord, c'est maladroit de faire une annonce 8 heures après un point de presse où, justement, on aurait pu répondre à toutes les questions.
Bien, puis ça lui a été posé comme question sur la quatrième dose. Il a parlé d'un effort de vaccination possible cet automne. Bon, il a manqué une bonne occasion de s'expliquer. Sur le retrait du masque, il y a quand même un défi, il y avait un piège. Il faut que tu annonces le retrait du masque tout en prévenant que la pandémie n'est pas terminée. Ça, c'est périlleux comme exercice. Est-ce qu'il a réussi?
Bon, je dirais que c'est un travail qui débute. Hein? Puis justement, bon, on va avoir l'occasion de lui reparler. Je suis convaincu. Il y aura à s'expliquer sur cette quatrième dose-là, mais aussi sur la question du port du masque. Il y avait cette pancarte devant lui. On continue de se protéger. C'est le grand défi de la santé publique à ce moment-ci. Puis je dis bien de la santé publique parce qu'on voit que le gouvernement s'est un peu éloigné de ces annonces-là, justement. La santé publique doit expliquer que la pandémie n'est pas finie, que la quatrième dose est nécessaire, que ceux qui n'ont pas pris leur troisième dose devraient la prendre, que finalement, le masque, oui, dans certains endroits, que finalement, c'est plus obligatoire, mais c'est recommandé quand même pour certaines personnes. C'est très complexe comme message, tout ça. Je pense que Dr Boileau a un travail à faire de répétition à ce moment-ci. Il va devoir continuer à donner de l'information pour être capable, justement, d'être très proactif dans ce que les gens ont besoin de savoir. Parce qu'on tombe dans cette phase de crise qu'on appelle l'accompagnement. À ce moment-ci, ce qui est important, c'est d'accompagner les gens dans ce qu'ils vivent, dans les questionnements qu'ils ont. On n'est plus en gestion de crise immédiate. Mmh. On connaît mieux le virus. Ça peut changer, on le sait. Mais là, il faut accompagner les publics. Et là-dessus, Dr Boileau va devoir être très proactif et multiplier les interventions.
Il a parlé du fait qu'une septième vague était probable, ce sont ses mots, à l'automne. À l'automne, on sait ce qui se passe. Une campagne électorale, élection à date fixe le 3 octobre. Donc, il y a des chances qu'on soit en campagne pendant une septième vague. Donc ça, pour des partis politiques, c'est un défi supplémentaire.
C'est pas très plaisant parce qu'on sait les campagnes électorales, c'est des moments où est-ce qu'on aime faire les grands rassemblements, on aime parler aux gens, on aime serrer des mains. C'est ça, c'est du porte-à-porte, c'est ça une campagne. Hein? Et ça se peut qu'on ait une septième vague, mais faut s'y préparer. Ça se peut qu'il y en ait une septième, une huitième, une neuvième. On ne sait pas jusqu'où ce virus-là va s'arrêter. Là, ce qu'on essaye de retrouver, c'est une certaine normalité. On connaît mieux le virus. Ça va faire du bien de retrouver les sourires des gens, de retrouver les visages des gens un peu partout. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde, mais il faut rester prudent. Puis on peut baisser le masque, mais on ne doit pas baisser la garde. Je pense que c'est ça le message important maintenant de la santé publique.
Puis, dans certaines sociétés, le masque est devenu un symbole de division. Aux États-Unis, par exemple, porter le masque, c'est afficher ses allégeances politiques. Comment on fait pour qu'au Québec, le masque ne soit pas politisé comme il l'est ailleurs?
On doit avoir un discours d'accompagnement, justement, et d'empathie. Hein. C'est peut-être ce qui nous a manqué un peu sur les non-vaccinés à une certaine époque, parce qu'on commençait à beaucoup les accuser, puis je pense que ça s'est rebellé. On a compris ça au niveau des autorités. Il faut que les gens apprennent à cohabiter ensemble. Il y a des gens qui ont besoin de porter le masque parce qu'ils ont un risque supplémentaire. Ils sont insécures. Il va falloir qu'on apprenne à se respecter entre nous. Et ça passe par quoi? Ça passe par une attitude de toute la société québécoise, où est-ce qu'on apprend à être indulgent sur le besoin de chacun.
Merci beaucoup, Victor, pour ces réflexions.
Merci.
À bientôt. Avec le débat sur l'avortement qui repart de plus belle aux États-Unis, qu'en est-il de la situation chez nous? On fait le point avec nos collaboratrices après la pause. Le débat sur l'avortement aux États-Unis a des échos chez nous. À Québec, la chef du Parti libéral, Dominique Anglade, et le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, croient que le Québec n'est pas à l'abri d'un recul en matière de droit à l'avortement. Le premier ministre François Legault affirme que tous ses députés sont pro-choix. Il réclame, tous les partis en fait, les autres partis réclament le départ d'un candidat anti-avortement du Parti conservateur du Québec, une demande qu'a refusée le chef Éric Duhaime.
Je demanderais à l'ensemble des formations politiques d'avoir clairement des candidats qui ne sont pas contre l'avortement.
Je te rappelle que même ici au Canada, même ici au Québec, il y a des gens
qui veulent qu'on recule sur le droit des femmes à disposer de leur corps. Moi, ça me fout la trouille. Ça me fout la trouille notamment comme nouveau papa d'une petite fille. Et puis, ces rappels-là doivent nous mobiliser, pas juste nous faire peur.
L'affaire a aussi des répercussions à Ottawa. Le premier ministre Justin Trudeau a indiqué ce matin que son gouvernement comptait prendre des mesures pour renforcer le droit à l'avortement au Canada. On en discute avec nos collaboratrices, Mélanie Marquis, qui est correspondante de la presse à Ottawa, et l'avocate Sophie Gagnon, qui est directrice générale de Jury Pop. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir, Mimi. Bonsoir, Sophie.
Sophie, je me tourne vers toi d'abord. On se pose la question légalement au Canada. Est-ce que le droit à l'avortement est vraiment protégé? Parce que, comme aux États-Unis, il n'y a pas de loi au Canada qui le protège. C'est un jugement de la Cour suprême.
La réponse est oui, Noémie. Puis, au Canada, le droit à l'avortement est garanti par notre Constitution, telle qu'elle a été interprétée par la Cour suprême. Ce que la Cour suprême a décrété, c'est qu'il est contre la Constitution, donc inconstitutionnel, de criminaliser l'avortement. Donc, je me suis posé la question aujourd'hui à savoir, bien, vu qu'il n'y a pas de loi, est-ce qu'il y a un vide juridique par rapport à l'encadrement de l'avortement au Canada? Puis vraiment, non, là, c'est protégé par la loi la plus forte qui n'existe pas au Canada, à savoir la Constitution.
OK. Donc, la Cour suprême s'est basée sur la Constitution et cette Constitution protège ce droit. Mélanie, aujourd'hui, Justin Trudeau a dit qu'il voulait réviser le cadre juridique qui entoure le droit à l'avortement au Canada. Qu'est-ce qu'il compte faire exactement?
Ouais, c'est pas très clair, en bref, Noémie, parce que ce matin, M. Trudeau, ce qu'il a dit, c'est que deux de ses ministres, donc Jean-Yves Duclos à la Santé et Marcy Ian, qui est ministre des Femmes, d'Égalité des genres, bien, que ces deux ministres-là étaient responsables de réviser le cadre légal qui entoure l'avortement. Mais le truc, c'est qu'il n'y a rien de nouveau, a priori, là-dedans, parce que dans la dernière plateforme électorale libérale, il y avait 4 engagements pour élargir l'accès, notamment à l'avortement. Et c'était repris d'ailleurs dans les lettres de mandat de ces deux ministres-là. Donc, veut-il aller plus loin? Je pense qu'il va falloir suivre ça dans les prochains jours. Cet après-midi, au passage, M. Trudeau a dit qu'il n'écartait pas l'idée de légiférer sur l'avortement en tant que tel. Là aussi, c'est un peu nébuleux, là. C'est quelque chose qui n'a jamais été évoqué dans le passé depuis que M. Trudeau est en politique. Et puis, à son bureau, on a dit que c'était vraiment pas l'intention de déposer un projet de loi pour encadrer l'avortement. Mais ça reste à suivre. Puis les libéraux, il ne faut jamais sous-estimer leur propension à marquer des points politiques au détriment de leurs adversaires sur cet enjeu-là.
Ben oui, mais c'est presque irrésistible pour eux de le récupérer politiquement. Mais donc, Sophie, ce que je comprends, c'est que enchâsser ce droit-là dans une loi, ça ne nous avancerait pas nécessairement plus. Une autre façon de te poser la question, c'est si un parti, si un gouvernement tentait de criminaliser à nouveau l'avortement ou d'en restreindre l'accès, qu'est-ce qui se passerait?
Donc, ce que les jugements de la Cour suprême établissent, c'est que le droit à l'avortement est garanti par différents droits prévus à la Charte des droits et libertés, dont le droit à l'égalité, le droit à la liberté aussi. Et donc, toutes les lois qui seraient adoptées par le Parlement, tant à Ottawa qu'à Québec, devraient respecter ces principes-là. Donc, si on a une loi qui viendrait tenter de criminaliser de nouveau l'avortement ou encore d'en restreindre l'accès, bien, cette loi-là pourrait être contestée. Puis pour demeurer en vigueur, bien, il faudrait que des avocats soient en mesure de convaincre la Cour suprême de renverser les précédents jurisprudentiels que j'évoque. C'est ce qui est en train d'être fait aux États-Unis, mais il faut savoir qu'au Canada, on a une tradition d'interprétation de notre Constitution qui diffère considérablement de celle des États-Unis. Aux États-Unis, on a une théorie là, qui est celle de faire valoir, de faire ressortir l'intention des pères fondateurs des États-Unis. Alors qu'au Canada, on considère que notre Constitution, bien, c'est un arbre vivant qui doit être interprété de manière cohérente avec l'évolution des mœurs et des valeurs au Canada. Donc, bien franchement, ce serait assez surprenant que plus de 20 ans là, après l'arrêt Morgenthaler au Canada, bien, la Cour suprême considère qu'il y a des considérations qui justifient de renverser ce précédent-là. Donc, les assises juridiques au Canada sont beaucoup plus fortes qu'aux États-Unis.
Mais ça n'empêche pas le débat de se poursuivre sur le plan politique. On le voit, cet enjeu-là s'infiltrer dans la course à la direction du Parti conservateur. Ça a forcé les candidats à la chefferie à se prononcer encore une fois sur l'avortement ces dernières heures, Mélanie.
Oui, exact. Hier, même si la consigne en début de journée, c'était de ne pas commenter l'enjeu, on avait envoyé ça aux députés ou aux sénateurs conservateurs, ça a forcé les candidats à la course à la direction à réagir. Il faut dire que parmi les 6 candidats, Noémie, il y en a une seule, Leslie Lewis, qui est anti-avortement, qui est contre l'avortement. Les autres sont tous pro-choix, mais la question se pose toujours à savoir comment va-t-on gérer au sein du caucus un député, par exemple, d'arrière-ban qui voudrait déposer un projet de loi d'initiative parlementaire pour ouvrir le débat. Et donc, ça va venir changer la dynamique de la course à la direction conservatrice, probablement.
Il nous reste peu de temps, Sophie, mais un mot sur l'accès à l'avortement au Canada. C'est pas parce que le droit est protégé que toutes les femmes y ont un accès égal.
Voilà, c'est vraiment là, à mon avis, là où le débat se situe. Ce n'est pas une question juridique, c'est une question factuelle d'accès. Et là, il pourrait avoir un potentiel pour des modernisations législatives. Donc, en clair, nous, l'avortement ne peut pas être criminalisé, mais des gouvernements provinciaux pourraient adopter des lois pour qu'il y ait des standards minimums pour garantir l'accès à l'avortement à travers le pays.
Merci beaucoup à vous deux d'avoir clarifié tout ça pour nous, Mélanie Marquis et Sophie Gagnon. À la prochaine.
À la prochaine. Merci.
La dévastation et l'horreur se poursuivent pour une 70e journée en Ukraine. D'ouest en est, les forces russes ont pilonné des villes, bombardé des sites stratégiques. Sur le terrain, la Russie semble avoir deux grands objectifs: solidifier son avancée dans le Donbass, la région de l'est du pays, et s'attaquer à l'approvisionnement de l'Ukraine en armes étrangères. On va faire le point avec notre collègue Louis-Philippe Bourdeau. Bonsoir, Louis-Philippe.
Bonsoir, Noémie.
Donc, parlons de Mariupol, dont on suit la situation autour de ce complexe métallurgique où des civils étaient pris. La Russie a annoncé être prête finalement à établir un corridor d'évacuation.
Ouais, l'objectif, c'est, tu l'as dit, d'évacuer ceux qui sont encore piégés à l'intérieur de l'usine d'Azovstal, le nom qu'on a entendu à de maintes reprises au cours des dernières semaines. Encore des centaines de personnes qui sont coincées à l'intérieur, une trentaine d'enfants. Donc, le corridor humanitaire qui pourrait être établi dès demain jusqu'à samedi. Cette nouvelle-là arrive après une journée intense de violences dans le secteur, des violences qui ont été dénoncées évidemment par l'Ukraine.
Російська Федерація продовжує блокувати наші підрозділи в районі заводу «Азовсталь». Це наразі поки що все, що я можу вам сказати. Яка там ситуація станом прямо на цю хвилину, я сказати не можу.
La Russie qui a aussi essayé de contrecarrer l'aide militaire étrangère. On a vu aujourd'hui des bombardements près de Lviv, donc sur des gares de train, sur des entrepôts de munitions et d'armes. La Pologne, qui est tout juste à côté, bien, c'est la principale porte d'entrée de l'aide militaire étrangère.
Puis pendant ce temps-là, l'Europe serait finalement sur le point de cesser d'importer tout pétrole russe.
Il faut convaincre les 27 États membres. Il va falloir l'unanimité de tout le monde. 6 mois pour bannir le pétrole brut. Jusqu'à la fin de l'année, les produits raffinés également pourraient être inclus. Ça crée de la contestation. On pourrait exempter certains pays, notamment la Hongrie. Et ça pourrait faire mal, bien sûr, aux consommateurs, mais c'est un mal qui est nécessaire, selon la présidente de la Commission européenne.
Today, we are addressing our dependency on Russian oil. And let's be clear, it will not be easy, because some member states are strongly dependent on Russian oil. But we simply have to do it.
Donc, c'est la 6e vague de sanctions de la part de l'Union européenne. Les États-Unis également qui sont en train de consulter les autres membres du G7 pour d'autres sanctions à venir plus tard.
À suivre. Merci beaucoup, Louis-Philippe.
Plaisir.
Le procès de Carl Girouard, le contre-interrogatoire du neuropsychologue, s'est poursuivi aujourd'hui. Il a été mandaté par la Couronne pour identifier les raisons qui ont poussé l'accusé à commettre l'irréparable le soir de l'Halloween 2020. Depuis hier, l'avocat de l'accusé bombarde cet expert de questions sur son diagnostic et son rapport. Laurence Royer suit les audiences pour nous. Bonsoir, Laurence.
Bonsoir, Noémie.
Le contre-interrogatoire a duré plus de 7 heures aujourd'hui.
Un très long contre-interrogatoire qui a commencé hier après l'heure du dîner. Donc, tu l'as dit, pendant 7 heures, l'avocat de Carl Girouard, Pierre Gagnon, a décortiqué le rapport de l'expert de la Couronne, le neuropsychologue William Potier. Un rapport qui avait pour but, je le rappelle, d'établir la personnalité et le fonctionnement psychologique de Carl Girouard. Et je vous rappelle qu'il a tiré la conclusion que Carl Girouard a un trouble de la personnalité narcissique et évitante. Donc, avec des dizaines et des dizaines de questions, l'avocat de la défense a tenté de trouver des failles dans son rapport. Pour y arriver, il a, par exemple, fait des comparaisons entre son diagnostic et des définitions du narcissisme qui est contenu dans le DSM-5, qui est un peu le dictionnaire des troubles mentaux. Il a aussi fait des comparaisons entre son diagnostic et certains symptômes ou comportements de Carl Giroir qui sont sortis là, pendant les témoignages qu'on a entendus dans les dernières semaines, dans des rapports d'évaluation aussi qui ont été déposés en preuve à la Cour.
Donc, on le voit, on est vraiment dans les fins détails, Laurence.
Oui, vraiment. L'avocat de la Défense a décortiqué pratiquement point par point le rapport de l'expert de la Couronne. Pour vous donner un exemple, l'avocat de la Défense a émis l'hypothèse qu'une partie du rapport de l'expert pourrait être faussée parce que dans ce rapport, il affirme que lorsqu'il a rencontré Carl Giroir pour l'évaluer, il ne prenait plus de médication. Bon, ça a été prouvé qu'effectivement, il avait arrêté la médication à ce moment-là, mais selon un autre expert, la médication aurait encore pu faire effet. Donc, vous voyez, le rapport du psychologue a vraiment été analysé au peigne fin pour tenter de trouver des failles. Et demain, il y a un autre expert de la Couronne qui va venir témoigner. C'est le psychiatre légiste Sylvain Fauché. Donc, à son tour, il va venir expliquer là, pourquoi, selon lui, Carl Giroir a passé à l'acte ce soir-là.
Merci beaucoup, Laurence.
Bonne soirée.
Si vous me permettez, j'ai envie de dire bienvenue parmi nous, bienvenue dans l'équipe, Martin.
L'administration Plante a engagé l'ancien patron de la Sûreté du Québec comme grand responsable de la sécurité publique. Martin Prudhomme devient directeur général adjoint de la métropole affectée à la sécurité urbaine. C'est un nouveau rôle qui est censé permettre à la Ville de mieux lutter contre la violence armée qui a coûté la vie à 4 adolescents depuis 14 mois. On en discute avec Daniel Renault. Il est journaliste aux affaires criminelles à La Presse. Bonsoir, Daniel.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Rappelons qui est Martin Prudhomme. C'est quelqu'un qui a eu tout un parcours et tout un départ aussi de la Sûreté du Québec.
Oui, parce que c'était un homme fort, hein, intègre. Il avait même été choisi comme administrateur provisoire à la tête du SPVM pour redresser le corps de police après la crise de 2016. Il a été longtemps à la Sûreté du Québec, était directeur de la Sûreté du Québec, également a été sous-ministre au ministère de la Sécurité publique. Et est arrivé ce qui s'est produit lors de l'enquête sur les fuites à l'UPAC.
Mais ça a été tout un imbroglio, là. Il a été démis de ses fonctions.
Oui, relevé provisoirement de ses fonctions. Mais un directeur de police comme lui, lorsque c'est relevé provisoirement de ses fonctions, ça veut dire, bon, à la maison. Et il y a eu une enquête qui a été menée par le Bureau d'enquête indépendante. Finalement, il a été blanchi de toute allégation criminelle parce que le problème vient d'une conversation téléphonique entre lui et l'ancienne directrice du DPCP, Maître Annick Murphy, qui s'est sentie intimidée. Et il y avait aussi des soupçons d'entrave au sujet d'écoute électronique dans le cadre de l'enquête sur les fuites à l'UPAC. Bon, mais finalement, le BEI a enquêté, il a été blanchi, mais le gouvernement a dit « Attendez, on va voir s'il n'y a pas des problèmes au niveau déontologique. » On a formé un comité d'experts, mais Martin Prudhomme a dit « C'est assez », a poursuivi le gouvernement au civil et il y a eu un règlement hors cours dont on ne connaît pas la teneur. Et je peux vous dire, Noémie, pour avoir parlé à certaines personnes aujourd'hui, jusqu'à après Noël, janvier, février, Martin Prudhomme pensait toujours qu'il était cuit, qu'il était brûlé, qu'il ne reviendrait jamais dans un rôle comme celui d'aujourd'hui ou encore à la tête d'un corps de police. Il travaillait même pour un de ses amis dans une entreprise privée. Et là, soudainement, cette nouvelle qui surprend tout le monde ce matin, il revient par la porte d'en arrière.
Ouais.
Il contourne le gouvernement parce que la réaction a été plutôt froide aujourd'hui de Geneviève Guilbeault. Mais il revient par la porte d'en arrière, mais il revient aussi par la grande porte.
Bon, qu'est-ce qu'il va faire exactement? Parce que là, c'est un nouveau rôle. On a l'impression que dans l'administration municipale, on se dote d'un deuxième chef de police en plus du chef de la police.
C'est une bonne question, ça. Gardons-la. Et qui sera le vrai futur chef de la police? Les gens se posent la question. Par contre, Martin Prudhomme dit, lui, qu'il ne va s'occuper que des choses administratives. Je peux vous dire d'emblée, rapidement, Noémie, que la réaction au SPVM est très bonne, autant du côté des troupes, la gendarmerie, les enquêtes, les cadres et aussi la haute direction. Il y a un nouveau chef de police qui s'en vient. Il y a tout un processus aussi qui sera mis en place.
De consultation publique.
Oui. est-ce que c'est ça qui aurait pu faire peur à certaines personnes au SPVM qui se sentent rassurées par l'arrivée de Martin Prudhomme? Mais il y a un nouveau chef qui s'en vient. Qui sera-t-il? est-ce qu'il sera un chef expérimenté? S'il est plus ou moins, Martin Prudhomme pourrait servir de police d'assurance aussi à ce futur chef.
Donc, peut-être aller avec un profil non traditionnel comme chef de police, sachant qu'on a un bon papa là, qui va pouvoir servir de...
Bien, écoutez, on jase tous les deux, on pose plus de questions qu'on a de réponses, mais Martin Prudhomme, je ne pense pas qu'il choisira, lui, fera partie du comité qui choisira le futur chef, mais il est là. Et aussi, un des problèmes de l'ancien chef, Sylvain Caron, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'interlocuteurs à la ville. Et là, le futur chef de police va avoir un interlocuteur qui est très sensible aussi et très expert des questions
policières. Et les défis sont colossaux. Merci beaucoup, Daniel, d'être venu nous en parler. L'intégrité des ponts de Québec et Pierre Laporte est menacée si des travaux urgents ne sont pas réalisés. En grève depuis le 22 avril, l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement a fait une sortie publique aujourd'hui pour dénoncer la situation. Le syndicat des 1800 ingénieurs cite des directeurs généraux du ministère des Transports qui ont récemment témoigné devant le tribunal administratif du travail. Le prix du bois d'œuvre se stabilise après avoir atteint des sommets astronomiques. Malheureusement, pour ceux qui veulent construire ou rénover, les prix n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant la pandémie. Pendant ce temps, le marché de la construction et les acheteurs continuent de s'adapter. Amélie Saint-Yves explique.
Ça, c'est du bois d'œuvre, c'est du résineux?
Absolument, absolument. Ça, c'est de l'épinette, fait que c'est un beau résineux, l'idée.
Mais quand on parle de plancher de bois franc, par exemple, là, on n'est plus dans le bois d'œuvre, de ce que je comprends.
Non, on n'est plus dans le bois d'œuvre. Ça, c'est plus un matériau qui est travaillé, là, qui est prêt à l'emploi. Là. Concrètement, je te dirais que le bois d'œuvre, c'est littéralement tout. C'est tout. Là. Oui, c'est l'ossature complète d'une maison. On parle des systèmes de structure, là, le plancher, les murs, le toit. Le bois d'œuvre, on s'en sert aussi pour toutes les installations ou utilisations temporaires de chantier. On en trouve aussi dans les matériaux de finition, les revêtements extérieurs, les planchers, les armoires.
Et l'année dernière, on était aux alentours de 2000 $ de l'indice Prix-Bec. On est autour de 1300 $ actuellement.
Bien, c'est sûr que ça l'affecte directement les prix des nouvelles constructions parce que c'est sûr que la valeur résiduelle d'un immeuble, bien, ça vaut aussi selon la valeur des matériaux utilisés pour la construction. Là. Fait que c'est sûr et certain que ça influence le marché immobilier puis tout ce qui englobe le domaine de la construction en général aussi.
C'est clair que ça dépend des constructions, mais globalement, le coût de la structure d'une maison représente autour de 20 % de sa valeur totale. Là-dessus, on peut compter 12 % pour le coût du bois d'œuvre et 8 % pour l'installation. Et
là, c'est important, là, justement, pour le client de bien prendre le temps de discuter avec l'entrepreneur. La plupart des contrats et de mes confrères là, entrepreneurs, on se garde des clauses ouvertes. C'est sûr que si on part avec un budget, qu'on est déjà à côté au maximum, comme on dit, là, dans le prêt hypothécaire et qu'on n'a plus de marge de manœuvre, il risque d'avoir des sérieux problèmes là, en bout de piste. Là. Tout ce qui est structure de plancher, structure de toit, les délais, je vous dirais là, que pour cette année, il y en a beaucoup qui sont complets jusqu'à Noël. Et il y en a qui sont rendus en octobre, début novembre, des fournisseurs. C'est le gros problème. Là. On pourrait en faire plus, mais à un moment donné, on n'a pas la matière première n'arrive pas. Là.
On constate qu'il y a une forte demande pour les dimensions de bois qui vont pour la construction. Donc, 2x4, 9 pieds. Il y a également une très forte demande du côté de la rénovation, 2x4, 8 pieds. Mêlé avec ça vient la guerre en Ukraine, qui fait qu'il y a de moins en moins de bois européens qui vient sur le marché. Donc, ça vient également affecter. Mais ce qu'on constate, c'est que les prix se stabilisent.
Je n'ai pas de boule de cristal. Je pense que pour d'ici, par exemple, les deux prochains mois, là, jusqu'à la fin juin, ça devrait être relativement stable. On n'anticipe pas nécessairement là, d'envoler des prix au niveau là, du bois d'œuvre résineux. De spéculer à plus long terme, ce serait peut-être un petit peu hasardeux. Il ne faut jamais dire, Fontaine, je ne boirai plus de ton eau. Mais je ne pense pas qu'on va retourner au prix pré-pandémie non plus. Je pense que ce que la pandémie a fait, c'est que ça a permis un rééquilibrage au niveau des coûts pour le ramener au prix réel ou à la valeur réelle.
Il n'y a pas que les communautés anglophones qui s'inquiètent du projet de réforme de la loi 101. Des intervenants des milieux judiciaires et médicaux aussi. On vous présente des témoignages au retour. « dans tout le débat sur le projet de loi 96, la réforme de la loi 101, on a beaucoup parlé de scolarité et des trois cours en français qui seront désormais obligatoires au cégep. Mais il y a d'autres parties de la loi qui suscitent beaucoup de réactions, et pas juste dans la communauté anglophone. J'en discute avec mon collègue Emmanuel Leroux-Néga. Bonsoir, Emmanuel.
Salut, Noémie.
Donc, il y a des organismes du milieu des soins de santé, du milieu de la justice, qui s'inquiètent des répercussions de certains articles de la loi.
Exactement. Le barreau, d'un côté, s'inquiète carrément d'une perte de l'accès à la justice, d'un ralentissement d'un système de justice qui est déjà très lourd, on le sait. Et il y a des médecins, eux, qui s'inquiètent s'alarment du fait que le projet de loi veut imposer le français comme langue exclusive de communication entre l'État et les citoyens, et ça, ça inclut les soins de santé. Ça fait en sorte que, à part pour les ayants droit puis des gens qui sont arrivés depuis moins de 6 mois au Québec, un patient et un médecin n'auraient pas le droit de parler en espagnol, en anglais ou en allemand ensemble. Et ça, bien, ça fait craindre le pire dans le milieu de la santé. Vous allez le voir.
On est.
Le français est extrêmement important. Mais quand on est malade, quand c'est le moment de vraiment communiquer nos symptômes, nos problèmes, il faut que ça soit aussi clair que possible. Il faut que je les comprenne, il faut qu'il puisse comprendre mes questions, mais on n'a même pas le droit d'essayer de chercher la langue dans laquelle nos patients sont le plus confortables pour essayer d'améliorer leur santé. C'est comme on recule dans une autre époque où c'est pas le patient qui est au centre, c'est les autres idées et principes.
Le projet de loi prévoit des exceptions dans les cas où la santé, par exemple, ou la justice naturelle l'exigerait. Mais selon la coalition, c'est pas assez. Ce qu'ils veulent, c'est que tout le secteur de la santé soit exempté.
C'est pas suffisant parce que la santé est à risque tous les jours dans toutes des communications avec un patient. Si le patient peut pas comprendre c'est quoi qui pourrait provoquer une hypoglycémie quand il est sur insuline, il peut rentrer chez lui, il peut donner une mauvaise dose, il peut tomber dans une crise hypoglycémique, il peut mourir.
Il y a une différence entre l'avocat qui fait des efforts, qui prend des cours, mais qui a de la misère à atteindre, à celui qui... Nous voyons également un enjeu relié à l'accès à la justice. Si on oblige tout citoyen qui passe devant un tribunal, sauf exception dans un dossier criminel, à être entendu par un juge unilingue français, et on peut brimer à ce moment-ci quelqu'un qui va en protection de la jeunesse, quelqu'un qui est aux petites créances, quelqu'un qui est en garde ou établissement, dont sa langue première est l'anglais. Les nouvelles contraintes qui sont ajoutées par le projet de loi 96 au niveau de la traduction immédiate obligatoire des décisions fait en sorte qu'il y a des droits qui peuvent se perdre.
Un autre élément qui dérange le barreau, c'est que maintenant, avec le projet de loi 96, seul le ministre de la Justice ou le ministre de la Langue française peuvent décider si l'anglais est exigé pour un poste de juge. Tout ça alors que dans une décision récente, la Cour supérieure avait jugé que ce droit appartenait exclusivement à la juge en chef du Québec.
Au moment où on se parle avec les nouveaux amendements, bien, c'est comme si le ministère de la Justice avait tous les pouvoirs pour décider quel juge pouvait être nommé au niveau de l'enjeu de la langue. Et il peut consulter, mais il n'a pas l'obligation de tenir compte des besoins qui pourraient être amenés par la juge en chef. Un peu le danger de revenir à ce qu'on craignait auparavant, donc de repolitiser la nomination des juges.
Tout le monde va se sentir comme il fait quelque chose qui n'est pas correct en parlant d'autres langues. Et ça, c'est un peu étrange. On ne peut pas avoir peur de pratiquer notre profession et d'essayer de mettre la qualité avant tout. On est débordé avec le COVID, avec le manque de personnel. On n'a pas besoin d'une autre barrière à faire ce qu'il faut faire avec nos patients.
Michel.
Bonsoir, Noémie.
Alors, aux États-Unis, la Réserve fédérale a augmenté son taux directeur d'un 0,5%.
C'est une façon vraiment d'intensifier la lutte contre la plus forte inflation depuis 40 ans.
donc en augmentant d'un demi-point de pourcentage. Ça, c'est la hausse la plus importante aux États-Unis depuis l'année 2000. On a signalé également aujourd'hui qu'il allait probablement en avoir d'autres assez importantes au cours des prochains mois.
C'est à suivre. L'espérance de vie des Québécois, oui, s'est remise du choc causé par la pandémie.
Selon l'Institut de la statistique du Québec, notre espérance de vie était de 82,9 ans en 2019. Elle a baissé à 82,3 en 2020. Et là, c'est passé à 83 ans. Mais je vais te l'annoncer tout de suite, là. On a le même âge. Je devrais mourir avant toi. Parce que les hommes, espérance de vie, 81,1 une année et 84,9 ans, presque 85 ans pour les femmes.
Bon, à savoir.
En tout cas, ça, c'est si on respecte la moyenne.
Et en terminant aux 22 heures.
Ce soir, on va revenir sur le dossier de l'avortement, sur la volonté du gouvernement Trudeau là, de prendre des mesures là-dessus avec Geneviève Télé.
Magnifique. Merci, Michel. Bye. Merci d'avoir été avec nous. Je vous dis à demain, 17 heures.